Bienvenue sur le podcast Dans le Vent sur 11MTL, toujours la meilleure référence hip-hop à Montréal et dans le Québec. Je suis en duplex avec Philcast, créateur de contenu sur la culture hip-hop de France. C'est une nouvelle collaboration pour moi avec la France, avec mon pays, depuis que je suis un expat, mais je reste bien sûr très collé à mon pays et aux créateurs de contenu sur la culture hip-hop. Salut Philcast, comment tu vas ?
Salut, ça va et toi ? La forme ? Bah du coup, est-ce qu'on dit bon matin,
good
morning, good afternoon ?
Ouais, on dit la version francophone de good morning en fait. Bon matin,
c'est exactement bon matin, ça. Parfait. Salut. Ok. Donc, avec Pete Gaillard, ça fait un moment qu'on parle sur Instagram et on s'est dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse un podcast. Donc du coup, vu que toi, t'es à Montréal, c'est un peu dur de s'attraper en vrai.
Ouais, c'est
donc
clair.
On est en duplex via Discord, ça marche très bien, il n'y a pas trop de latence.
Non.
On a de quoi se filmer, on a de quoi enregistrer, c'est parfait. Et il y a un sujet, toi, t'es vraiment très éclectique en termes de musique, etc. Tu touches un petit peu à tout. T'es à la fois dans le hip-hop, tu touches aussi un petit peu au métal. Hein,
ouais, aussi métal, country, folk.
Country. Ah ouais, c'est fou d'avoir une culture aussi large. Malheureusement, j'ai pas une culture aussi large que toi à ce niveau-là. Mais par contre, on a au moins un point en commun, c'est qu'on aime le hip-hop West Coast. Et aujourd'hui, on a décidé de parler du gangsta rap. Du gangsta rap, mais pas G-Funk.
Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, il y a déjà il y a un an ou deux, j'avais écrit un article dans le livre de Frank Daco Croche, un gars de Bordeaux qui fait des livres sur la culture hip-hop. Et en fait, le livre s'appelle We Can't Be Stopped. Une espèce de
en référence à l'album des Ghetto Boys.
Exactement.
C'est ça. Ok.
Une espèce de grosse bible dans lequel il y a plein d'articles, il y a plein d'opinions. Donc c'est idées libres et opinions un peu. Et j'avais écrit en fait un article sur j'avais essayé en fait d'écrire sur le gangsta rap. Mais c'est vrai qu'il est souvent très mélangé avec le G-Funk parce que souvent, ça va de pair. Puis, j'avais essayé de m'interroger dans le fait de qu'est-ce que le gangsta rap ou est-ce que le gangsta rap peut exister sans le G-Funk, tu vois.
Tout à fait.
Donc, voilà. Et donc, finalement, j'ai fait cet article-là il y a une bonne année. Et puis, c'est vrai que je suis venu vers toi, je t'ai approché parce que j'aime beaucoup ce que tu fais avec ta bande.
Merci.
De Joyeux Luron.
Ah oui, c'est qu'à le dire.
Ouais, et
big up à eux.
Big up à eux, big up à tout ce que vous faites, à tous les invités aussi super cool que vous avez eu et tout. Et vous avez tous aussi une grosse culture hip-hop. Moi, je suis assez niché, mais vous, vraiment, vous englobez toute la culture hip-hop. Donc, c'est vrai que je t'avais approché en disant, parce que je voulais faire quelque chose avec toi. Puis, je me disais, écoute, ce serait cool d'essayer de se reposer cette question-là, tu vois. Parce que je trouve que c'est peu couvert comme sujet, tu vois. Genre, on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup de Dr. Dre, de Chronic, Doggy Style, Warren G.
Ouais, l'influence G-Funk au final, ouais.
Tu vois, on parle beaucoup de ça. Puis il y a beaucoup de super contenu sur YouTube, sur Dr. Dre, Death Row, tout ça. Puis il y en a, puis genre, on en a tous parlé. Et moi, je suis aussi un gros fan de Doggy Style, puis de Warren G, puis de Dre.
Ah, parfait. Pareil, hein, moi, c'est pareil, mais... c'est vrai qu'il est indéniable de dire que avant ce G-Funk, il y avait quand même le gangsta rap, et c'est un peu un sujet qu'on va évoquer tous les deux.
Et donc, un gros big up à tous ceux qui créent du contenu sur la côte ouest de manière générale et tout, tu sais. Mais voilà, moi je trouverais ça cool que toi et moi, dans notre discussion, on cite des noms qui sont peu cités. Puis les gens, ils vont comprendre pourquoi. Peut-être qu'ils ne vont pas connaître ces noms-là, mais
à Los Angeles, surtout les plus jeunes, hein.
De Los Angeles jusqu'à San Francisco, même jusqu'à Oakland, même jusqu'à Sacramento, il y a des artistes incroyables. Et donc voilà, je trouverais ça cool qu'on en parle aussi, histoire de jeter des fleurs à ceux qu'on en peut eu, quoi.
Évidemment, il y a pas de souci. Et comment ne pas commencer à parler de gangsta rap sans évoquer du coup la ville de Philadelphie et Schoolizzy, qui est en vrai le premier entrepreneur du rap, parce que c'est vraiment le premier, avant Too Short, avant E40, avant tout le monde, à avoir vendu vraiment ses CD dans la rue, ayant déclaré sa propre société pour pouvoir presser ses CD, et tout en faisant des références à son gang. Et contrairement aux Bloods et aux Crips, son gang s'habillait pas, le titre m'échappe, le nom de son gang m'échappe, les Bloods et les Crips s'habillaient en rouge et en bleu respectivement, et c'est les membres du gang de Schoolly D s'habillaient en vert.
Oui, voilà. Oui. D'ailleurs, le Six in the Morning de Ice-T, il vient de Schoolly D. Hein.
Exactement. Et je crois que même que, bah, officiellement, c'est peut-être le premier morceau de Gangsta Rap. Alors, officiellement, c'est le premier morceau de Gangsta Rap West Coast. Voilà, Six in the Morning, ça donne le là. Alors, c'est un morceau que... Aujourd'hui, avec du recul, avec tout ce qui a été fait après, c'est un peu compliqué de l'écouter. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ce morceau. C'est-à-dire que la batterie est très mécanique.
Ouais, tu sais, pour moi, je trouve que tout ce qui est avant le début des années 90, c'est du rap qui est né, qui est né des cendres du breakbeat en fait. Donc, oui. Tu sais, c'est Les rappeurs avant rappaient sur des morceaux de breakbeat que les DJ ils isolaient dans des block parties, et c'est là qu'ils faisaient des animations, et c'est là qu'a commencé à naître le rap, parce que c'était sur des morceaux de breakbeat de disco ou de funk ou d'électro boogie en fait. Donc c'est vrai que tous les albums de rap de 86, 87, 88, 89, c'est très dur à écouter aujourd'hui, vraiment quoi, même ouais. Toute la volonté du monde.
Alors il y a quelques exceptions quand même, il ouais. Y en a que j'aime bien.
Ah ok.
Mais tu vois, par exemple, je pense à... je trouve que Run DMC, finalement, c'est pas dégueu à écouter aujourd'hui. Tu vois, même par exemple, It's Tricky, elle est dans une pub.
C'est pas mal.
C'est It's Like That qui est dans une pub. Le It's Tricky, elle revient souvent. Ça passe. En vrai, c'est pas si inécoutable. Mais c'est vrai que le Six in the Morning, tu vois, c'est très mécanique. Il y a pas beaucoup de mélodies.
Non.
Et c'est vrai, comme tu disais, il y a tous ces breakbeats de funk, de disco qui étaient un petit peu triturés par les DJ. Et puis on était à la préhistoire du rap au final. Hein, donc on n'avait pas encore inventé le feu.
Tu vois, je trouve pour moi que The Message de Grandmaster Flash, ça s'écoute grave bien encore aujourd'hui.
Oui.
C'est super. Oui. Bon.
Ouais. Ah, il a même été samplé par Coily Ray l'année dernière, donc pour dire que c'est encore au goût du jour. Je suis totalement d'accord. The Message, on pourrait même dire, on dirait que c'est le plus grand morceau de l'histoire du hip-hop, ça me choquerait pas. Je dirais si tu réunis 100 passionnés de hip-hop, on pourrait tous se mettre d'accord pour dire que c'est le plus grand morceau de rap.
Ça c'est clair. Ice-T serait-il le parrain du gangsta rap, c'est un peu la grande question, mais bon, bien sûr, Schoolly D reste quand même, je pense, le premier à avoir fait ce genre de rap là, quoi. Ça veut dire proche de la rue, avec vraiment un storytelling.
Mais ouais, là où Ice-T va plus loin que Schoolly D, c'est que Schoolly D, ça reste quand même, on le connaît que pour ce morceau et pas grand chose par la suite. C'est que Ice-T va développer un personnage. Il s'inspire du livre Iceberg Slim, déjà ouais. Juste pour son pseudo, s'appelait Ice-T. Puis il a les Jerly Curl, il a ce look avec la casquette Kangol, etc. Il va développer toute une imagerie. Et par la suite, il va enfanter un Ice Cube dont on parlera après. C'est lui.
En plus, il a même sorti un album qui s'appelle Iceberg Slim, dont on parle peu.
Bah oui.
Qui est pas super, mais l'album carrément s'appelle The Iceberg Slim.
T'sais, c'est vrai.
Il a assumé de A à Z, quoi.
On parle peu
de cet album-là, parce que bon, il est pas super, quoi.
Non, c'est vrai que Ice-T, c'est un album qui est sorti 90, The Iceberg Slim, il me semble, non?
Ouais, 80. Ouais, je pense que c'est avant Home Invasion, avant OG, tout ça, là.
Ouais, ah oui, donc c'est vraiment ouais, dans sa période où il est encore. Ouais. OG, c'est sûrement mon album préféré de Ice-T, mais après, il y a les albums. C'est pas un des plus iconiques. Par exemple, Power est plus iconique, avec sa cover où il cache quelque chose derrière le dos et tu retournes l'album, tu vois qu'il a une arme. C'est.
Incroyable.
Mais oui, c'est qui a l'image marketing exceptionnelle, quoi. C'est. C'est fou. Aujourd'hui, bon, passé dans les années 2000, Ice-T, il a plus penché vers le cinéma. Bah, il joue le rôle d'un flic dans New York, Unité Spéciale. Mais sinon, c'était quand même un artiste hors norme, quoi.
Mais franchement, s'il fallait que tu fasses un top 10 de pochettes d'albums, est-ce que la pochette de Power, c'est sûr qu'elle est dans ton top?
Non, peut-être pas non plus.
Ah ouais!
Ah, peut-être pas non plus, mais je sais pas, parce que la pochette est trop, peut-être un peu trop minimaliste pour moi, tu vois. Genre par exemple, Doggy Style, pour moi, c'est une pochette exceptionnelle parce qu'il y a plein de détails. L'album Bébé. Dangerous de Michael Jackson, si on sort un peu du rap, j'aime les pochettes qui sont très détaillées où il y a un. Il y a une esthétique là, c'est peut-être un peu trop minimaliste. Toi, c'est une de tes préférées?
Bah, je sais pas, je trouve la meuf en string, en talon, le gros fusil à pompe derrière. Je trouve que c'est vraiment tout représentatif de ce que lui, il a vécu. Quand il. Bah, tu sais, genre, il était pas pimp, mais bon, il était quand même dans la rue. C'était vraiment un mec qui exerçait des activités qui étaient illégales, tu vois?
Oui, bah, un peu comme dans Hustle and Flow, quoi, l'activité entre entre pimp et gangster, quoi. Mais tu vois, dans le même genre, une pochette que j'aime beaucoup, qui est à peu près sortie à l'époque, c'est celle des Two Live Crew, où t'as quatre femmes alignées en string, etc. Je trouve cette pochette relativement incroyable. Aujourd'hui, oh si, ça pourrait passer. En vrai, ça pourrait passer quand je vois les pochettes des artistes féminines.
Bah ouais, grave.
Je dirais même que c'est pas assez vulgaire pour aujourd'hui, en fait. Ouais.
Toutes les rappeuses filles aujourd'hui, elles sont tellement plus loin que ça, là.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, là, on est sur la côte ouest, il y a un Ice-T qui est en train de rouler sa bosse. Mais sur la côte est, il y a aussi des épidémies de crack, les mêmes problèmes que sur la West Coast.
Exact.
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un gangsta rap qui se développe à New York, et aussi peut-être inspiré de Skoolizy et de Ice-T, même si c'est pas assumé.
Et donc en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle qu'on parle de l'état de l'état de la ville de Los Angeles à l'époque, avec les émeutes de Watts, avec l'arrivée du crack, la guerre des gangs et tout, mais si on prend New York exactement à la même époque, c'était une ville mais qui était délabrée, qui était aussi ruinée par le crack. Donc
dans les années 70, on a qu'à voir Taxi Driver. C'est terrible, New York dans les années 70. Dans les années 80, elle commençait à se reconstruire un petit peu. Mais oui, effectivement, il y a toujours eu les épidémies de crack. Et surtout, le Bronx, Harlem, Brooklyn, ça craignait à mort, quoi.
Ah bah ouais. Tu sais, genre, pour moi, gangsta rap, par exemple, ce serait le vidéoclip de Duck Down de Boogie Down Production.
Oui.
Qui est... Tu vois, qui est d'une violence incroyable, des espèces de gros plans sur des armes, des balles, la fumée de la balle, les fusillades et trucs, quoi. C'est quand même waouh, incroyable. Et si on veut pousser un peu plus loin, même si on veut être un petit peu des connards, Ice-T vient de New York, quoi. Tupac vient de New York.
Oui, oui, c'est vrai. En plus, il vient du New Jersey, je crois. Truc comme ça, ouais. C'est vrai.
Donc, tu sais, bon, ok. Bon, si on veut vraiment être relou, quoi, tu vois, mais New York était dans ce même état que Los Angeles à l'époque, aux mêmes années, exactement pareil. Le gangsta rap, où est-ce qu'il est né, quoi? Où est-ce qu'il a fleuri en premier, quoi?
Ouais, et puis quand on écoute du Ice-T, est-ce que ça sonne réellement californien? Californien en musique, tu vois, par exemple, on sort un peu des carcans du rap. Quand t'écoutes, par exemple, les Doors, quand t'écoutes les Beach Boys, il y a quelque chose de... Même si les Doors, c'est un peu sombre, quelque chose de chaud, quelque chose ensoleillé.
Exact.
Voilà. On exclut le morceau The Storm des Doors. Mais chez Ice-T, il n'y a pas ça. C'est froid.
Ouais.
J'ai pas l'impression d'être en Californie. Même, par exemple, le morceau New Jack Hustle, là, pour le film qu'il a fait... Le film, pas qu'il a fait, mais...
New Jack City.
Avec Wesley Snipes, là. New Jack City.
Ouais.
Mais c'est purement new-yorkais. De toute façon, toute l'intrigue se passe à New York.
Bah oui.
Donc, ils ont fait appel à Ice-T pour New Jack Hustle. C'est pas pour rien.
Bah oui. Et donc,
je dirais même qu'il y a quelque chose de plus chaud chez Boogie Down Production parce que eux, ils reprennent aussi un peu le flow jamaïcain.
Exact.
C'est-à-dire que c'est des Jamaïcains, les KRS-One, et beaucoup de rappeurs new-yorkais, des Haïtiens, des Jamaïcains. Et quand on écoute, par exemple, le morceau Guadadadangdang, bah déjà, ils disent des expressions un peu jamaïcaines, un peu comme dans les sound systems. Peace to my nine. Non, je sais plus comment s'appelle ce morceau de Boogie Down Production. Bah, KRS-One a purement un flow jamaïcain.
Bah oui.
Et ça sonne peut-être un peu plus chaud que Ice-T.
Bah oui. Et c'est drôle parce qu'à la même époque, si tu prends dans The Chronic, il y avait aussi des espèces de références au raga, au dance.
Snoop Dogg fait du raga.
Et ouais, exact.
Mais je crois que c'est sur 19 ou le morceau juste avant, à la fin, Snoop Dogg, il fait du raga. Oui. C'est dingue de dire ça aujourd'hui.
Bah oui.
Bah ouais. Oui. Avant de faire du reggae, il a fait du raga. Voilà.
Bah oui, là, sur The Chronic, là, il reprend une espèce de gimmick ragamuffin et tout, quoi. Puis même sur Stranded on Death Row à la fin et tout, quoi. Donc tu vois.
Oui.
Et même sur NWA, sur Always Into Something, il y a une espèce sur de Rasta, là, qui fait le refrain et tout, quoi. Tu vois.
C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis, ouais. T'sais, effectivement.
Il y avait ce truc aussi. À l'époque, il était aussi très similaire avec ce que faisait KRS-One, parce qu'il est d'origine jamaïcaine aussi, quoi, tu vois.
Et moi, je pense qu'honnêtement, c'est KRS-One qui a ramené ce truc
grave
jamaïcain. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Après, bon, bah, sur la baie, on en parlera peut-être après. Il y a eu un Spice One qui a abusé du truc. Mais bon, moi, j'adore, hein, voilà. Et si on y va par ordre chronologique, donc la descendance directe de Ice-T, c'est bah du coup NWA, très bonne transition, parce que tu l'as évoqué. Et bah du coup Eazy-E, MC Ren, Ice Cube. Mais quand on écoute en termes de prod NWA, ça sonne très Public Enemy. Donc ça au final, très new-yorkais.
Grave, mais je me suis toujours fait la réflexion. Le deuxième album d'NWA, on dirait des productions du Bomb Squad, quoi. C'est chargé, mais un truc de malade, quoi.
Mais même le premier album,
ouais,
hein, je trouve.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, Ice Cube, quand il va se lancer en solo, c'est avec le Bomb Squad qu'il va se lancer.
Il va rester très proche du Public Enemy au début, ouais.
Mm.
Ice Cube est en fait étant un peu un rappeur qui découle d'Ice-T, quoi.
Mais totalement. Bah déjà dans le nom, il s'appelle Ice Cube. Bah, y a pas plus grillé comme nom, hein. C'est comme si t'étais fan de Playboy Carti et je me lance dans le rap, je m'appelle je sais pas Playboy Carter.
Playboy Carter.
Premier mot qui me passe en tête, mais et voilà. Bah, après bon bah Eazy de base c'est un producteur, c'est pas, enfin
ouais.
Producteur. Il a juste mis de l'argent. C'est un peu initié au rap. Dr. Dre, lui, il venait un peu plus du milieu funk. Donc, c'est lui qui va un peu commencer à chapeauter le délire un peu funky chez NWA.
Ouais, exact.
Mais voilà. Bah après, le truc, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, quand on fait du hip-hop, il faut que ça sonne new-yorkais, il faut que ça sonne comme à New York. Les seuls mecs qui faisaient des sons un peu funky à l'époque, c'était EPMD.
Ouais, grave, grave. Et bah oui, voilà. C'est bien que tu parles de ça, justement, parce que le travail funky dans EPMD a hyper inspiré Redman, qui a toujours été, jusqu'à, bah, tu sais, genre moi je prends vraiment, pour moi, les deux premiers albums de Redman sont vraiment représentatifs de Redman. Tout ce qu'il y a eu après, bon, il est parti dans d'autres directions et tout, mais les Redman, ça a été
les trois premiers albums pour moi.
Ah ouais.
Parce que Muddy Waters, il est dans cette lignée.
Ok.
Donc tu penses à There Is the Dark Side, What's the Album, There Is the Dark Side et Muddy Waters.
Ouais.
Lequel des trois tu préfères d'ailleurs?
There Is the Dark Side, je suis prêt à me couper la main pour cet album, quoi.
Et eh ben pendant longtemps, je préférais Muddy Waters, mais en vrai, There Is the Dark Side, c'est son meilleur.
Ouais.
C'est celui qui le déteste parce que c'est son côté sombre et tout, mais c'est. En fait, c'est à la fois funky, new-yorkais, il y a une espèce de funk sombre. Les productions de Rock Wilder, elles sont exceptionnelles. Eric Sermon aussi, Redman, il prod, ouais. Ok, ouais, on est d'accord là-dessus.
Je trouve ça drôle, tu vois, parce qu'à New York, on avait cet album de rappeur, de rap new-yorkais qui était très funky. Et on avait aussi MC8 sur la côte ouest qui, lui, par le biais du travail de DJ Sleep, même si tu trouves que le premier album d'MC8 est très G-Funk, et je te le donne aussi, mais il y a ces espèces de recherches de son jazzy aussi,
En fait,
contrebasse, jazz et tout ça, qui n'est pas G-Funk, tu vois.
alors oui, en fait, les premiers albums des Compton Most Wanted, c'est pas de G-Funk du coup. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est
100%,
très jazzy, comme tu l'as
et
dit.
grave.
Mais à partir de We Come Strapped, il y a des sons qui sont toujours un petit peu jazzy, mais il y a des sons quand tu les entends dans la façon dont la basse glide,
Ouais.
etc.
All for
Bah,
the money, par
c'est
exemple, tout ça,
G-Funk.
quoi.
Mais c'est normal parce que The Chronic venait de sortir, donc forcément t'es sur la West Coast. Tu t'inspires aussi un petit peu de ce qui est dans l'air du temps. Et en vrai, la G-Funk dans les années 90, c'est. Bah, tous les artistes West vont s'en inspirer.
Grave.
Donc, au final, après, même l'album après,
Ah,
Death
il est
Threat de
super
MC8,
celui-là.
moi j'aime beaucoup cet album. Il y a des sons qui sonnent très G-Funk. Ouais, on va rechercher le petit gimmick qui fait bien. Et en fait, j'y pense pour toi, le morceau de CMW. Le plus connu là, je crois, qui est dans
Growing up in the
GTA.
hood. Growing up in the hood, là, qui était dans Boys in the hood.
Oh. Je crois que c'est ça. Celui dit I got a gang story to tell. Je sais plus comment s'appelle ce morceau. Le nom m'échappe. Attends, j'ai l'album là, je vais même te le sortir. Who took me under?
Who took me under, ok. Avec la
Voilà, celui-là
Cadillac,
pour
là?
toi. Est-ce que ça sonne G-Funk ou est-ce que ça sonne plutôt jazzy à contre-pied de ce qui se fait en mode G-Funk?
C'est un peu G-Funk quand même.
Voilà. Et cette cover, par exemple, je la mettrais devant celle de Power.
Ah ouais, elle est incroyable.
Je
Putain,
la
genre
trouve
avec le flingue à
incroyable.
l'arrière.
Et attends, je vais quand même montrer
Ouais.
aux gens, quand tu la déplies, t'as la voiture en entier.
Ouais.
Je le montre à ma caméra qui est là. C'est exceptionnel. Voilà.
Ouais. Est-ce que
Et
tu
voilà.
penses que... Tu sais, moi, j'ai... Qu'est-ce que tu penses du fait que Compton Most Wanted, bon, qui est un groupe, mais en fait c'est MC8 qui rappe sur
Oui.
98% de tout, en fait. Est-ce que tu penses pas que Compton Most Wanted, c'est un groupe qui aurait pu avoir plus de lumière, mais qu'à cause d'NWA, ils sont restés un peu dans l'ombre, et pourtant ils viennent de Compton aussi, tu vois?
Ah, c'est une remarque intéressante, ça. J'avais.
Est-ce que tu penses que le succès d'NWA, indirectement, n'a pas mis Compton Most Wanted dans un espèce de nuage flou
Alors, le premier truc qui me vient en tête, pourquoi est-ce que NWA est connu, c'est par rapport à la subversivité.
Exact.
Fuck the police. Pas de nuance. Nique la police. Compton Most Wanted, ils racontent des histoires de gangsters. Ils vont jamais y aller de manière frontale.
Storytelling.
Si le gangsta rap, voilà, si le gangsta rap, si NWA est connu, c'est malgré tout parce que c'est un groupe qui dérange. Compton Most Wanted, c'est quand tu rentres dans le délire gangsta rap, c'est un des groupes auxquels tu vas t'intéresser, mais les médias n'en parlent pas, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est que
Très
NWA,
dommage.
c'est coup de pied dans la fourmilière, voilà.
Ouais. NWA, ils avaient ce truc un petit peu à la Public Enemy et tout, mais je trouve que Compton Most Wanted, pardon, dans le gangsta rap, dans le storytelling, dans le fait de c'est pour moi, Compton Most Wanted, c'est un peu Voyage au bout de la nuit de Céline, quoi. Tu vois,
Très bien, ouais, je suis d'accord, ouais.
c'est vraiment.
Écrit de manière crue, etc., je suis
Exact, il
d'accord.
t'amène vraiment dans les tripes et dans les rues de Compton, quoi, tu vois. Ça me fait penser à une chanson dans le premier album d'MC8 où, en fait, je me rappelle plus le nom, je sais pas si c'est All for the Money et tout, mais en fait, il explique qu'il marche dans les contre-allées de Compton et qu'il veut faire un cambriolage dans une maison, mais qu'il peut pas rentrer parce qu'il y a le chien qui aboie. Puis il y a le contre-jour du soleil qui le gêne. Donc en fait, il va se dire qu'il va repasser plus tard. Parce que là, c'est pas un bon moment pour rentrer par le portail arrière. Mais c'est un truc de malade. Jamais t'as eu ça dans
Oui,
NWA. Jamais.
c'est hyper descriptif. Et
Ouais.
je crois savoir lequel. C'est le morceau avec le. Ah, c'est pas All for the Money, c'est l'autre. Je crois celui dont tu parles, c'est.
Les plus doux de l'album, mais c'est incroyable, putain, ce qu'il raconte dedans,
C'est.
quoi.
Ah, alors c'est peut-être pas celui que je pense. Il y a un violon assez pesant.
Oui, je pense. Ah, J'ai oublié le morceau, je suis vraiment désolé. Hein. J'ai oublié le nom.
Ah, et même en revoyant comme ça, là, je crois que je m'en souviens plus. C'est pas Can I Still Kill It? Going Out Like Jeez? Ah, je sais plus. Mais ouais, en tout cas, c'est sur cet album. C'est
un
sur
album magnifique à montrer à la caméra, là.
Ouais. Et ouais, y a All for the Money, il y a Take to With Me. Mais ouais, effectivement, comme tu disais, très descriptif. Y a d'ailleurs un film que je trouve très. Bah, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Boys in the Hood.
Ouais.
Qui est pour moi très. Moi, j'ai toujours préféré Boys in the Hood à Menace Society.
Moi aussi. Parce que
je le trouve très contemplatif. Il y a une atmosphère où des fois, il y a une musique déjà qui est sublime, très jazzy. Et il y a des moments de silence où tu entends juste un hélicoptère passer, un chien qui aboie, et comme ce que décrit MCA, t'as un soleil qui est partout sur la ville en fait. Et je trouve ça. Donc toi tu préfères du coup Boys in the Hood ou Menace Society?
Ouais,
toi,
Boys in the Hood, pour moi, Boys in the Hood, c'est le film d'un esthète quoi. C'est le film fait par un réalisateur qui maîtrise. Qui fait du cinéma. Pour moi, Menace, c'est pas du cinéma, quoi. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est cool, Menace, mais l'agressivité, la violence des personnages, pour moi.
Je suis d'accord. Il n'y a aucune valeur ajoutée. C'est juste pour te dire, on va faire un film plus violent que Boys in the Hood. Mais après, c'est. Je sais pas, quand j'ai revu Menace Society. Quand je l'avais vu adolescent, j'avais trouvé ça cool.
Grave.
Forcément, quand t'es adolescent. Mais quand tu grandis, tu te dis... En fait, j'ai d'attache avec aucun personnage. C'est tous des cons. J'ai exact. Cette impression-là. Voilà. Exact. Alors que Boys in the Hood, il y a une sensibilité. Il y a un mec qui devient gangster. On comprend pourquoi il le devient. Il y en a un qui veut pas se lancer là. Cuba Gooding Jr. Qui te donne envie de chialer. Quoi. Le mec, tu t'attaches à lui, quoi, tu vois. Tu comprends les gens, tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends comment est-ce qu'ils se font endoctriner dans les gangs, etc. Menace Society, c'est en mode, on fout la merde et on va... Donc ça commence par un braquage d'épicerie. Voilà, tu t'attaches pas.
Je pense que je préfère le film South Central à Menace Society, quoi, tu vois.
Je l'ai même pas vu.
Bah, tu vois, c'est pareil, il est très contemplatif. Tu vois, je pense que je préfère Baby Boy à la limite, quoi. Tu vois,
Baby Boy, t'es sympa. Ouais, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais ouais, t'es sympa.
Non, mais tu sais, il est cool, Menace. Tu sais, il a une bande originale incroyable qui est
incroyable
mieux,
pour le coup, ouais.
Qui est mieux que celle de Boys in the Hood.
Mais ah, bah, qui est très hip-hop.
Ouais, mais.
C'est de l'art et tu sens que c'est. Bah, déjà, John Singleton, je crois, il a 22 ans quand il fait ce film. Je crois qu'il sort de l'école de cinéma. C'est-à-dire que le mec, on vient de lui enseigner comment faire du cinéma. Il se dit, j'ai grandi dans le ghetto, je vais le filmer comme je l'ai vu. Et voilà, c'est rien de plus simple, en fait. Pour lui, c'était très simple, et ça marche.
Ouais.
Et c'est un film, quand on parle de cinéma en général, bon, évidemment, on le comparait pas au Parrain ou à Citizen Kane, mais c'est un film qui est reconnu comme un grand film.
C'est ça.
Voilà.
Donc,
pour revenir à Ice Cube, parce que c'est vrai qu'on a parlé à la fois de MC8 et tout, Ice Cube, donc du coup, il s'inspire pas mal du son new-yorkais. Et donc, pour le bien de cette émission, j'ai réécouté un peu Ice Cube, notamment The Certificate, The Predator, qui est pour moi un peu dans la même lignée. Et en 93, avec l'arrivée du G-Funk, il va faire Lethal Injection. Qui est mon album préféré d'Ice Cube.
Ouais, moi aussi.
C'est vrai ? Ah, j'aurais pensé que tu préférais le Predator ou Death Certificate pour le côté plus rough.
J'ai aimé Predator pendant très longtemps. J'ai aussi beaucoup aimé le premier album de Ice Cube. Je pense que ma chanson d'Ice Cube préférée, c'est Summer Vacation. Là.
Oh, incroyable. Cette bassline-là, pour l'époque, ça devait être puissant. Hein.
Justement, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un épisode de Drink Champ, puis il y avait DJ FN qui disait, mais faut que Ice Cube fasse juste un film avec cette chanson-là, quoi. C'est incroyable. Mais,
très bon parallèle, ouais.
Mais ouais, je pense que l'état, l'injection est mon album préféré d'Ice Cube parce que je trouve que la production, elle est soyeuse.
Et elle est soyeuse. Mais
Ouais.
est-ce que c'est ce qu'on attend d'Ice Cube? Moi, j'aime bien ce qui est soyeux, mais Ice Cube, il y a ce côté rough, tu vois.
Ouais, mais tu vois, il a fait beaucoup d'albums avant Death Certificate, America K. Ben, America machin là. Non, pas Most Wanted.
America KKK Most Wanted.
Ouais, c'est ça. Les Kill at Will, puis tout ça.
Excellent EP, ouais, Kill la Twill.
C'est ça. Fait que là, je trouve ça cool avec l'état d'injection. Il arrive enfin avec un truc plus posé, moins chargé, plus épuré. Enfin, tu vois.
C'est vrai, et quand je vois par exemple, bon, moi, j'ai TikTok, et sur TikTok, le son You Know How We Do It, on l'entend souvent. Quand on voit des
Sérieux?
images de Los Angeles avec un coucher de soleil, même les jeunes qui sont nés en 2005-2007, ils aiment bien ce morceau. Ça vieillit super bien. On adore Summer Vacation. Je suis pas sûr que si tu fais écouter Summer Vacation à un enfant, un adulte, un jeune de 20 ans,
Ouais.
il ait ce même feeling. Alors que You Know How We Do It, composé par le fils de Quincy Jones,
Ouais.
QD3, en plus, il y a une vibe
Bah oui.
incroyable, quoi. Et c'est là où on pourrait peut-être commencer le débat, le G-Funk
Exact.
et le gangster rap. What's the
Exact.
real difference, en fait? Quelle est
Exact.
la réelle différence? Pour toi, comment est-ce que tu vois la différence entre G-Funk et gangsta rap?
Wow. Bah tu vois, on a beaucoup parlé au début de on a beaucoup parlé au début de Ice-T, de Boogie Down Production, et que il y avait aussi du gangsta rap à New York au même moment qu'il était à Los Angeles. Fait que bon, l'œuf et la poule, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai que Ice Cube, il a jamais vraiment fait du gangsta rap pour moi, parce qu'il a toujours eu un peu une plume plus soignée. Pas que le gangsta rap était une plume pas soignée, mais Ice Cube, c'est un peu fenêtre sur cour, quoi. Tu vois, c'est un peu le mec qui se met à la fenêtre et qui décrit le ghetto avec une plume un petit peu plus soignée, un petit peu plus riche que peut-être d'autres rappeurs, tu vois.
Ah, quand même, il parle beaucoup de son AK-47 à Ice Cube, hein,
Ouais,
mais intéressant, intéressant.
mais tu vois, et comme... Ah ouais, non, ouais, c'est une bonne question. Bah, je pense que Ice Cube, il a... Je pense que pour moi, le G-Funk, il est né avec Dr. Dre.
Pour moi, le G-Funk, il a été cristallisé avec Dr. Dre, mais c'est quand même Above the Law. On peut pas renier que c'est les instigateurs et que pour moi, DJ Quick, avec son premier album, ça a été aussi une des premières influences, tu vois. On pourrait citer EPMD aussi dans les premières influences, hein. J'ai pas chaud de le dire, que
Ouais.
Dr. Dre a dû s'inspirer de EPMD. Mais pour moi, celui qui a donné une vraie identité au G-Funk, oui, c'est Dr. Dre.
C'est d'entendre, surtout
Parce
que
que quand tu
Above
écoutes
the
Above the
Law.
Law, on te parle de G-Funk, il y a des sirènes, certes, mais c'est encore trop agressif. Pour moi, c'est gangsta rap, Above the Law.
Exactement. Même
Voilà.
s'ils ont commencé un tout petit peu avant NWA, mais je pense à peu près au même moment, tu vois, 89, 90.
Ouais.
Moi, je suis hyper fan de Above the Law. J'adore l'album
Pareil.
Uncle Sam Curse, là.
Moi aussi, Uncle Sam Curse, mais je préfère Black Mafia Life,
Ok.
l'album noir que j'aime beaucoup.
Ouais. Tu vois, pour moi, un des artistes qui fait du gangsta rap, mais qui n'a pas fait du G-funk, du fait de ses sonorités, et que j'aime beaucoup, c'est MC Ren, quoi. Tu vois?
Ah oui, ah mais après MC Ren, c'est très niche et très particulier.
Personne parle d'MC Ren. Pourquoi? Mais c'est magnifique, MC Ren.
Ouais, mais pourquoi? Parce que il fait pas de tube. C'est ça aussi la magie du truc, c'est de faire des tubes.
C'est
Ice Cube, il a
vrai.
des tubes. Ice Cube, il a Today Was a Good Day, là, You Know How We Do It.
Ghetto Bird, à la limite, quoi, tu vois.
Ghetto Bird, c'est un street hit, ouais, l'air de rien. MC Ren, moi j'aime bien ses albums, mais il
Magnifique.
n'y a pas une réelle identité, tu vois. C'est-à-dire que le gars est juste très fort, quoi. Mais après, oui, c'est pas un. C'est pas un. Bah, c'est celui qui écrivait les textes pour Eazy-E quand Ice Cube est parti, donc c'est un homme de lettres, quoi.
Ouais, grave. Moi, j'ai toujours adoré MC Ren. J'ai toujours mangé ses albums. Pour moi, c'est Los Angeles, la nuit tout le temps. Il n'y a pas de jour, quoi, tu vois.
Ouais, c'est que la nuit, c'est ça.
C'est
Shock
que
of the Hour, par exemple,
Exact,
c'est
c'est que la
juste
nuit.
la pochette, quoi.
Ouais.
C'est le feu.
Ah ouais. C'est incroyable, quoi, tu vois. Et tu sais, je trouve que il y a eu un petit peu un changement. Entre 91 et 92, pour Dr. Dre, il est un petit peu rentré dans une salle du temps, tu vois. Parce que le deuxième album d'NWA, on voit un peu les prémices du son de Dr. Dre.
Bah oui, bah Always Into Something dont t'as parlé tout à l'heure.
Ouais, tu vois.
C'est un son qui aurait pu sortir sur The Chronic.
Grave, 100%. 100%. Mais après, quand il arrive avec The Chronic, il y a vraiment un truc où, je sais pas, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre sur le son californien. Puis toi, tu préfères de Chronic ou tu préfères Doggy Style?
Oh, direct, les questions dangereuses là
Là,
comme
les
ça.
questions dans direct dans le gras.
Mais
jambon cru, moutarde.
Snoop Dogg, c'est vraiment mon rappeur préféré parce que au-delà de ce
Ouais.
qu'il a Doggy Style et tout, j'aime le personnage, etc. J'ai aimé le suivre pendant les JO de Paris, voilà. Mais là, j'ai vraiment du mal à choisir. Il y a quelques années, j'avais fait mon top 10 de mes albums préférés, mais en vrai, c'est
Ouais.
interchangeable, hein, parce que j'avais même mis 2001 devant The Chronic. Aujourd'hui, je préfère écouter The Chronic à 2001. On va dire, Doggy Style est plus abouti et sur The Chronic, il y a quand même des choses un peu archaïques. Mais en réécoutant même ces morceaux que je trouvais archaïques avant, je les trouve dingues. Par exemple, Stranded on Death Row, dont tu as parlé tout à l'heure. La première écoute, j'ai fait, ouais, c'est juste un cypher. Mais la prod, elle est dingue.
Ouais.
Mais faut le réécouter et réécouter. Il faut pas le négliger, ce son-là. Il
C'est
est
ça.
fou. L'orgue au début, quand t'as Bushwick Bill qui parle, et puis ça part avec une batterie pesante. Waouh.
Ouais.
Moi, j'ai une théorie de ouf.
Ok, vas-y.
Je vais la partager parce que j'en ai jamais parlé.
Vas-y.
Dr. Dre, et toi qui es fan de musique au sens large, pour moi, Dr. Dre s'est inspiré de Nevermind de Nirvana pour faire The Chronic.
Oh, ok.
Et je vais te dire pourquoi.
Ok.
Dans la série The Defiant One sur Netflix, il y a un moment où il y a un passage où on voit Dr. Dre en train d'écouter du Nirvana et il dit c'est un de mes groupes préférés. D'accord?
Ouais.
Et en fait, quand tu écoutes musicalement Nirvana et The Chronic, t'as vu, les caisses claires sont très fortes. Elles cassent les oreilles limite. Et ça, c'est très singulier du grunge, justement, de Seattle. Et c'est surtout la nonchalance de Kurt Cobain et la nonchalance de Snoop. Les
Oh.
mecs, ils ont le même style vestimentaire. Chemise à carreaux, Chuck Taylor, ils sont nonchalants. Et je me suis dit, batterie qui claque, un son, un son hurlant et un mec nonchalant qui chante, c'est Nirvana, c'est aussi The Chronic, tu vois.
Incroyable.
Et c'est sorti genre à un an et demi d'écart, tu vois.
Ouais, oui, parce que
C'est pour ça
Nevermind
que
est
je me
sorti en
dis, et
91.
je trouvais pas ça déconnant. Bah, c'est ma petite théorie à moi, c'est...
Ah, c'est intéressant.
Je...
C'est
Tu
intéressant,
vois?
mais je vois ce que tu veux dire, genre pour les snares. Puis je le partage vraiment, ouais.
Tu vois, la batterie qui claque vraiment quand, par exemple, t'entends un morceau que j'aime beaucoup, je crois que c'est Lithium sur c'est non, c'est ça.
Ouais.
Bah t'as vu comment il commence tout doux avec une espèce de son et après ça part de manière très brute, un peu comme pas mal de sons sur The Chronic, Stoned on Death Row par exemple, dans
D'ailleurs, ce
l'attaque des
qui
morceaux. Ouais.
oui, puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, bah il n'y a pas longtemps, je sais pas, mais il y a eu une entrevue, bah en fait, un moment de discussion entre Dave Grohl et puis Pharrell. Puis Dave Grohl, en fait, il explique que le début de la batterie sur Smells Like Teen Spirit, c'est quelque chose qu'il a pris du funk.
D'un truc de disco ou de funk, oui, j'avais vu ça effectivement.
Tu vois quoi? Et donc, en fait, il écoutait énormément des groupes de funk, dont j'ai. Bah, en tout cas, les Temptation, Rick James, Parliament de Funkadelic et tout ça.
Ouais, les
Et
Royal Players, tout ça, ouais.
voilà. Et donc, en fait, il écoutait beaucoup ça. Et ce début-là, bah, en fait, il l'a pris à la funk, quoi.
Bah, pareil, je l'ai vu cette interview, ouais, je sais plus dire le nom de quel groupe il l'a pris, mais incroyable. Mais incroyable. Ouais, c'est vrai.
Et là, Farid, il fait.
Ouais.
Je suis
quelque
chose, quoi, tu vois.
Ouais, bah, c'est ça aussi, les Américains, ils savent sortir un peu de leurs carcans musicaux.
Bah oui.
Parce que nous, en France, on a un peu de mal à faire.
Bah oui. Mmh. Puis juste
aujourd'hui, un peu plus. Les gens sont un peu plus éclectiques, en tout cas, les beatmakers.
Aujourd'hui, là. Parce que, on dirait. Parce que le rap est le nouveau rock.
Oui. T'sais, oui. Post Malone, il aurait fait de la musique il y a 20 ans, il aurait fait du rock. SCH, il aurait fait de la musique il y a 20 ans, il aurait fait du rock.
Bah oui, grave. Puis il y a un espèce de mélange maintenant, même dans le look et tout, tu vois. Les Lil Yachty, les Lil Baby, tu vois. Tous ces mecs-là sont XXX.
Temptation, ah
ouais,
oui.
Tu vois, clairement. Il a fait des morceaux heavy metal sur certains.
Il a fait des morceaux metal, ouais, j'ai vu.
Ouais. Donc, tu sais, là maintenant, c'était comme ça. Mais justement, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un épisode avec un Français, Doc Shadow, que je salue beaucoup. Et justement, j'avais parlé avec lui du crossover rock-rap juste avant l'avènement du new metal, quoi. Du néo-metal, quoi, tu vois. Mais aux États-Unis, ça a toujours été ça. Les gens ont toujours eu une ouverture d'esprit sur les autres sonorités, sur les autres musiques. Et ça n'a jamais été des carcans comme en France. En 1994, il y avait des tournées qui se faisaient sur lesquelles il y avait des groupes comme Biohazard, des groupes comme Madball, qui sont des groupes de hardcore, mélangés avec du House of Pain puis du Onyx. Ça a toujours existé aux
États-Unis. C'est fou, ça.
Tout le monde s'est toujours mélangé.
Après, Onyx, c'est quand même un groupe assez gueulard et tout. Moi, je pense qu'on est dans cette, dans cette audience, tu vois.
Ouais.
Et ouais, donc... après, donc... Pour faire le parallèle entre le gangsta rap et le G-funk,
ouais.
Tu vois, moi je prends par exemple donc, du coup Ice Cube qui est gangsta rap, on a dit il s'inspirait beaucoup de Public Enemy.
Grave.
Snoop Dogg par exemple qui est très G-funk, très laid back, on a dit très nonchalant. Son rappeur préféré c'est Slick Rick qui est d'une autre école.
Exact.
Qui est new-yorkais, mais d'une école storytelling, un petit peu plus joviale, mais voyou aussi en catimini, quoi.
Ouais. Mais je pense que Snoop, il est G-Funk, quoi, tu vois. Puis là...
Oh, bah c'est l'âme de la G-Funk.
Ouais. Ah ouais, c'est le drapeau de la G-Funk, quoi, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Après, il y a eu,
Warren G aussi, qui l'est plus, quoi, aussi, même.
Qui ça?
Warren G, qui l'est aussi beaucoup.
Warren G a... Alors, c'est... Oui. Alors, du coup, qui est le plus G-Funk entre Warren G et Snoop?
Warren G.
Très bonne réponse. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi pourquoi Warren G n'est pas sorti des années 90. Parce que passé 2000, Warren G, il a fait un tube, la Looking At You. Et après, on n'a plus entendu parler. C'est qu'il est resté que dans la G-Funk. Et Snoop, il s'est un peu plus diversifié.
Grave.
Quand on l'a critiqué en allant chez No Limit parce qu'il fait de la bounce music, bah en fait, il se diversifiait et ça l'a permis de tenir au moins jusqu'au milieu des années 2000, quoi.
C'est clair.
En termes de notoriété.
Ouais.
Mais ouais, effectivement, pour moi, Warren G, c'est purement G-Funk, et puis ça se voit dans l'esthétique, enfin, au niveau des prods, tout est lisse, etc. T'as même l'impression que c'est gentil comme musique.
Ouais.
Alors que ça ne l'est pas.
Non, vraiment pas.
Voilà.
Comme DJ Quick aussi, tu vois, il est G-Funk.
Oui, alors DJ Quick, c'est... Oui, c'est G-Funk, en vrai, oui. Mais alors du coup, Quick is the Name, qui est sorti en 91, avant qu'on parle de G-Funk, c'était déjà un album de G-Funk sans que lui, il le sache. Alors du coup, il est arrivé avant Above the Law et avant... Est-ce qu'on peut dire que c'est G-Funk? Oui, je pense qu'on peut dire ça, mais avec du recul, quoi. Il en faisait sans s'en rendre compte.
Ouais, je pense aussi, ouais. Bah oui.
Oui. Mais c'est clairement G-Funk. Et la G-Funk a pas mal évolué dans les années 90. Tu passes de The Chronic à Doggy Style à Warren G, G-Funk Era. Après, Safe and Sound de DJ Quick. Et après, All Eyes on Me de Tupac. Chaque année, le G-Funk, il est différent. C'est-à-dire qu'un G-Funk de 1992 n'a rien à voir avec un G-Funk de 1994.
Exact. Et puis, là, je n'ai pas de nom en tête, mais je me rappelle être tombé sur un site internet qui répertoriait beaucoup d'artistes de Los Angeles. il y a beaucoup de latinos aussi qui ont fait du G-Funk, quoi.
Ah, c'est bien d'en parler parce qu'on n'en parle jamais.
Bah ouais, tu vois, je pense.
Kid Frost, on l'oublie pas.
Exactement, Kid Frost, tu vois.
T'as aussi Mr. Capone E. T'as toute une scène. D'ailleurs, t'as fait une très bonne playlist de rap chicanos, je tiens à te le dire.
Ah, merci.
Ouais, sur Spotify, tu me l'avais partagé, j'avais écouté ça, c'était très chouette.
Ouais.
Et oui, mais de toute façon, les latinos sont là depuis le début du hip-hop. Quand on regarde la série, par exemple, The Get Down sur Netflix, je sais pas si tu te souviens de cette série. Bah, le personnage, le protagoniste, c'est un latino, et justement, c'était bien de mettre en avant aussi qu'il y avait des latinos dans la danse, dans le rap, etc. Voilà.
Je vais essayer de retrouver cette playlist-là, parce que comme ça, ça pourrait nous faire discuter de quelques artistes.
Alors, j'ouvre Spotify parce que je l'avais... Je crois qu'il y a...
Ah oui, Lowrider Vibes. Ouais. Bah oui. Funk Do Beast.
Funk Do Beast. Bah, ça, c'est les petits de Cypress Hill. On est bêtes, on les a oubliés.
Bah oui.
Parce que c'est les petits produits par Be Real.
The
Psycho Rim, c'est un peu plus horrorcore.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Même Funky Aztec, groupe assez méconnu.
Ah, je connais pas.
Mais qui a sorti un morceau avec Tupac à un moment donné, No Sleep Into Darkness, qui d'ailleurs n'est pas sur les plateformes de téléchargement.
Ah.
Sûrement pour des problèmes de droits d'auteur avec des maisons de disques. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce morceau-là a dû être sur un contrat avec genre un label. Et donc forcément, le groupe Funky Aztec ne doit pas détenir les droits sur ce qu'ils ont fait, comme c'est arrivé à mille et une personnes, malheureusement.
Ouais, malheureusement. Et puis aussi le fait que bon, bah, t'as eu Death Row qui détenait les musiques de Tupac, et après Amaru, donc du coup la mère de Tupac. Je crois qu'aujourd'hui c'est Mopreme, donc son frère, qui détient les droits. C'est un peu compliqué. Ouais, et puis sur ta playlist, j'ai vu que t'avais mis Mr. Night Owl. C'est génial, Mr.
Ouais,
Night Owl.
Bah ouais. Et donc tu vois dans aussi la playlist que j'avais fait, 6 Million Ways to Murder Choose One, qui est tirée en fait de l'article que j'ai fait sur le livre, je remarque que j'ai mis beaucoup plus d'artistes de la Bay Area que vraiment de Los Angeles et de ses environs.
Ah, ça permet de faire une bonne transition, ça.
Ça permet de faire une bonne transition et justement de te poser une question là-dessus. Toi, la scène de San Francisco, de Oakland, qu'est-ce que t'en penses? Depuis quand tu écoutes des artistes venant de cette scène-là? Et est-ce que tu trouves qu'elle a toujours été mise un petit peu en arrière-plan de Los Angeles, en fait?
Bah, clairement, pour reprendre les termes qui avaient été dits par Driver, c'est une scène qui est maudite.
Exact.
On ne comprend pas pourquoi. Il y a des trucs exceptionnels. Tout vient de là. Ne serait-ce que, par exemple, Folk Shizzle, tout ça, ça a même été repris dans les Easels, ça a été repris dans le jargon français. Quand Zoxy, après, fait des expressions en Ozo, Aza, qui après vont être repris par Booba et fonder le 9-2 Easy, ça vient de la baie.
C'est vrai.
Tu vois le...
Ouais.
Les sonorités à base de grosses basses, etc. Pour moi, le G-Funk s'inspire de la musique de la Bay Area.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis.
Et c'est criant dans All Eyes On Me. Parce que All Eyes On Me, j'ai dit que c'est un album de G-Funk qui est passé à un level supérieur parce qu'il se reconnecte avec ce que fait E-40 et Mike Mosley à cette période-là, en 1995. Enfin, ils sont en 96, mais on est dans ces eaux-là, quoi.
Et très important de mentionner, avant de te redonner la parole, que vu que Tupac a vécu à Oakland, ça a été l'un des rappeurs de Los Angeles qui a le plus eu de featuring avec les gars de la baie.
C'est fou, ouais. Mais c'est bien de le préciser parce que en début de vidéo, on dit il vient de New York. Et effectivement, après, il était à Oakland.
Exact.
Pour moi, ça a toujours été un rappeur d'Oakland, hein, Tupac.
Ouais, grave.
Et ensuite, Los Angeles, il s'approprie cette ville. Voilà. Hein. Et ouais, donc ouais, pour te répondre, les mecs de la Bay Area, en fait, le truc, c'est que ils visent un succès local. À San Francisco, ils sont des millions, des millions. Et quand je dis San Francisco, ça va jusqu'à Portland, Seattle, etc. Et tous les mecs comme Brother Lynch Hug, donc qui est de Sacramento, mais aussi tous les mecs de la Bay Area, E-40, Too Short, bah, ils ont surtout compté sur un succès local avant de de penser à un succès international. Donc en soi, tu vois, des mecs comme G Staline, ils sortent encore des albums et ça marche.
Bah oui.
Et je veux pas dire qu'ils ont pas d'ambition, mais je veux dire que bah ils sont dans leur cocon et puis voilà quoi.
Est-ce que la B aurait pas est-ce que la B n'a-t-elle pas manqué de promotion du fait que peut-être toutes les maisons de disques étaient aussi à Los Angeles et que eux sont loin et qu'il n'y a pas eu vraiment d'institution, label, maison de disques a été fondée aussi. Beaucoup de rappeurs de la B ont été en indépendant ou alors à un moment donné ont eu des contrats avec des maisons de disques et donc, par exemple, l'album de Spice One, America KKK Most Wanted, qui est sorti en 95, je pense, n'est pas sur les plateformes de téléchargement, tu vois.
Ouais. Et bah, pour te répondre, et justement, j'allais exactement parler de Spice One, parce que, justement, en fait, les rappeurs de la Bay Area, ils se connectaient avec les albums de... Avec les albums, avec les rappeurs de Los Angeles. Et quand on prend le cas de Spice One, ils se connectaient pas mal avec les mecs du South Central Cartel, donc incroyable. Prodigy et Havoc.
Ouais.
Les vrais, les originels.
C'est vrai.
Et pour produire... Et ils s'invitaient entre eux, mais c'est juste que les mecs de Los Angeles essaient de leur donner de la force, mais déjà les mecs du South Central Cartel, c'est des mecs un peu niche.
Exact.
Voilà, c'est Snoop Dogg quand il se connecte avec. Après, quand par exemple Snoop Dogg se connecte avec E-40 pour Candy, ça y a du succès. À chaque fois qu'il y a des connexions, j'en ai pas. Bah, tu vois, par exemple, Tupac, il invite tous les mecs de la baie, l'album a du succès.
Et il est aussi sur leur album.
Le Picture Me Rolling, c'est avec CPO. C'est... D'ailleurs, paix à son âme qui nous a quittés. Richie Rich, il signe chez Def Jam. Et son album, il marche.
Ouais.
À l'époque, on l'a oublié, mais son album marche. L'album de Richie Rich, qui est très très bien d'ailleurs.
Season Veteran.
Mais... Ouais. Exactement, j'avais oublié le Season Veteran.
Mais ouais.
Et toi, t'en penses quoi à peu près de toute cette mouvance de la Bay Area, les E-40, et même ça va jusqu'à Brother Lynch Hug, et toi, je crois que t'aimes beaucoup cet artiste.
Ouais, moi je suis un fan du producteur N. Banks, je trouve que...
Ah, j'adore aussi.
Je suis un fan de E-Ski aussi,
le Dr. Dre de la Bay,
ouais.
Avec ses accords de piano.
Incroyable producteur de la Bay. Qui signe des morceaux incroyables, par exemple un sur la bande originale de Friday. Après, il signe un hit avec Montel Jordan à un moment donné. Moi, j'ai toujours trouvé que le son de la Bay, Spice One, les E-40, les Richie Rich, Drew Down, City Cell, j'ai toujours trouvé que c'est. Même j'en avais mis dans ma playlist. Looney Corleon.
Ouais.
J'ai toujours trouvé que ces artistes-là faisaient un autre rap californien, tu vois.
Clairement, bah là, tu m'as cité 3-4 artistes, Celly Cell, Drew Down,
ouais.
Et je sais plus lequel tu me prends. C'est 3 styles totalement différents.
Exactement.
Drew Down, on est dans de la pimp shit, le mec qui se fait des permanentes 100%. Avec des boucles, etc.
100%.
Celly Cell, c'est la street, pure et dure.
C'est clair.
Nocturne.
Ouais.
Et quand on va du côté de Cibo et Brother Lynch Hung, c'est des cannibales. C'est hyper versatile. Et le mec de la baie qui a eu le plus de succès quand même à cette époque-là, c'est MC Hammer.
Très important de parler d'MC Hammer.
Ben oui.
Très important de parler de M. Et que je trouve que lui est par exemple Del de Funky Homo Sapiens.
Homo Sapiens.
Qui viennent aussi de la B, mais qui sont vraiment très lunaires, quoi.
Mmh. Très lunaires et qui... Après, Del de Funky Homo Sapiens, c'est un peu comme les mecs du... Ben, je crois qu'il est du ce collectif, là, les Hieroglyphics.
Ouais.
Et les Souls of Mischief. C'est des... En fait, j'associe ça à de la musique un peu rap alternatif pour les skateurs.
Ouais,
je sais que c'est grave de catégoriser une musique. Un peu comme Cypress Hill, tout ça, etc. Mais c'est plus... Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu plus la cible. Tu vois, par exemple, les Loonies, ils ont un single qui est un des meilleurs morceaux de l'histoire du rap, là, Get Five On It, et tout le reste, c'est quand même très niche, hein. c'est pas accessible.
Tu sais, il y a eu le groupe de Click avec E40, Bill A.G. et tout.
Et sa sœur, ouais, et tout. Ouais, en fait, c'est toute sa famille.
Qui a jamais été super fou, mais qui fait partie de... Bah, en fait, ils ont toujours été meilleurs en solo, surtout E40, mais c'est un groupe qui, pour moi, fait partie du base. Puis, d'ailleurs, je voudrais rebondir sur South Central Cartel que tu as cité tout à l'heure, parce que je voudrais parler de Murder Squad aussi.
Oui, ah bah oui.
Qui est quelques membres de South Central Cartel qui avaient formé ce groupe-là, Murder Squad, et que si les gens qui écoutent cette vidéo, ce podcast-là, ne savent pas qui est South Central Cartel,
allez écouter.
Dites-vous, alors oui, parce que c'est hyper musical, c'est vraiment du G-funk pur, mais
pour moi c'est plus gangsta rap.
Mais c'est très joyeux quand même au niveau des sonorités.
Ouais, oui.
Mais dites-vous, en tout cas, si vous connaissez pas ce groupe, dites-vous que vous le connaissez, parce que dedans il y a LV qui a fait le fameux Gangsta Paradise avec avec Coolio. Donc si vous connaissez pas South Central Cartel, dites-vous que vous connaissez le fameux chanteur LV.
Oui, c'est vrai. Bonne remarque, effectivement. Il est sur les refrains.
Mais ouais.
Ouais, mais en fait c'est vrai, parce que South Central Cartel, le premier album, un des premiers albums là. J'ai oublié le nom. C'est pas le All Day Every Day, parce que All Day Every Day, oui, ça c'est G-Funk, 100%. Mais celui d'avant, In Gats We Trust.
Oui.
C'est gangsta rap. En vrai, c'est même limite comme du Compton Most Wanted. Et c'est vrai que quand tu écoutes Prodigy et Havoc, ils ont sorti un album en commun, c'est G-Funk aussi. Ouais, donc effectivement, ils ont un peu touché aux deux, voilà.
Ils ont un petit peu touché aux deux, tu vois. Ils avaient peut-être des textes... C'était comme la plume de Compton Most Wanted avec le son de Dr. Dre. C'est comme un mélange hybride entre... Compton, Most Wanted, et Dr. Dre, et le clan Death Row, quoi. Et c'est cool qu'on en parle, parce qu'on parle jamais de South Central Cartel, on parle jamais de Compton, Most Wanted, c'est très important qu'on en parle aussi, donc.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, c'est important. Et il y a aussi un autre groupe dont on parle pas, qui est un peu dans le même genre, qui est aussi de South Central. Bon, je sais que Compton, Most Wanted sont de Compton. Dubsy on the Mad Circle.
Oh, incroyable.
Bah, parce que, en fait, Dubsy, déjà... C'est quelqu'un qui a commencé le rap en même temps qu'Ice Cube. Bon, Ice Cube a percé avant lui, donc il lui a donné aussi un peu de force. Il va se faire produire par Sir Jinx et aussi son frère DJ Crazy Tunes.
Ouais.
Mais lui, Dubsy, il est resté fidèle à ses convictions, tout comme Coolio. Hein, t'as parlé de Coolio et Gangsta's Paradise. Ils font pas de G-Funk, ils font vraiment du pur gangsta rap. Et que tu prennes les albums de Coolio... pour moi, Gangsta's Paradise, c'est pas un morceau G-Funk, c'est un morceau gangsta rap.
Clairement.
C'est un morceau gangsta rap, très accessible. Hein. Ils ont trouvé la boucle qui marche, voilà, le Stevie Wonder, Elvie au refrain.
Le morceau gangsta rap.
De toute façon, derrière, c'est produit par Disney.
Ouais. Donc, morceau gangsta rap qui a réussi à passer à la radio, à passer à la télé, qui a démocratisé un peu le genre gangsta rap, ça a été clairement Gangsta's Paradise.
Évidemment. Mais évidemment.
J'aurais tellement aimé que l'album avec Dr. Dre, qui devait s'appeler Helter Skelter,
sorte. Helter Skelter.
Ah, mon Dieu, j'aurais tellement adoré ça. Là, tu vois, là, vraiment, genre, on aurait eu un album phare de gangsta rap et aucunement G-Funk, c'est sûr.
Mais juste le morceau, le seul morceau qu'on connaît, là, qui est sur la BO de Murder Was the Case, là, de Dr. Dre.
Natural Born Killers.
Mais... Je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un synthé ou une guitare, mais c'est presque un morceau de métal dans l'attaque du morceau. Il est fou, ce morceau.
Ah ouais, il est incroyable.
C'est une dinguerie. Et imagine, cet album aurait vu le jour, mais qu'avec des prods comme ça.
Imagine, mais c'était ça, je pense, le but, c'était faire un truc délire, genre à la Murder Was the Case, quoi. Mais que ça, quoi.
Bah ouais. Et là, pour le coup, là, on n'est plus dans du G-Funk.
Non.
Là, pour moi, Dr. Dre, il dit, je vais me remettre à faire du gangsta rap avec Ice Cube. C'est-à-dire que quand tu fais un morceau avec Ice Cube, tu c'est lui qui te dicte tes lois. Tu dis, tu vas faire du gangsta rap avec moi.
Ouais.
Et bon, tu parlais de métal. Bon, la seule connexion d'Ice Cube avec, je crois que c'est la seule, avec Korn.
Oui.
C'est un morceau que j'aime pas, perso. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve qu'il est un peu raté, je trouve, ce morceau.
J'aime pas quand... Bah, je te rejoins déjà.
Ouais.
J'aime pas quand les guitares font office de sample, sont samplées, puis, ouais. Puis ne sont pas jouées, tu sais. Là, les guitares sont devenues un sample, et j'aurais aimé que ce soit peut-être plus organique dans la production, tu vois.
Déjà, j'ai pas l'impression qu'il y a Korn, parce que j'entends pas le chanteur de Korn.
Ouais.
Les guitares, comme tu dis, elles sont samplées. Quand tu fais un feat de métal, faut qu'au moins... Ouais, bon, c'est vrai que la batterie peut être hip-hop. C'est sympa aussi quand la batterie est live. Pourtant, l'histoire était intéressante. Enfin, tu vois, il y a une discussion avec le diable. On lui dit, c'est à ton heure de venir. Enfin, voilà, quoi, il va mourir. Et il dit, j'emmerde même la mort. Quoi. Le morceau aurait pu être dingue. Mais il est raté.
Tu vois, je pense qu'à la limite... Le morceau Weekend avec Dazzy Fix sur Predator est plus métal.
Weekend.
Hein?
Le morceau avec Dazzy Fix.
Ouais. La Weekend. Sur Weekend. Predator. Où je pense que Dazzy Fix est samplé. Le morceau s'appelle Weekend.
Check Yourself avec Dazzy Fix, mais celui-là, je me souviens plus. Ok, je l'ai plus en tête.
Ah ouais? Weekend. Je pense. Attends, Weekend, Ice Cube. Je pense que c'est avec Dazzy Fix. Ou alors Dazzy Fix ont samplé dessus.
Wicked.
En tout cas, là, je peux pas le mettre, sinon on va se faire sucrer la vidéo, mais...
Ah ouais, après, il est rough. Après, ok.
Tu vois, c'est le quatrième morceau de Predator.
Mmh. Ok.
T'iras écouter ça. Je trouve que ce morceau-là, pour le coup, est plus métal que ce qu'il a voulu faire avec Korn, en fait, qui est vraiment raté, quoi.
Ouais. Mais bon, au moins, il l'aura tenté. On va pas lui en vouloir, hein, après toute la carrière qu'il a fait.
Bien sûr.
Voilà.
On est personne pour critiquer Ice Cube.
Ouais, évidemment. Alors, ensuite, quand on arrive aux années 2000, donc la G-Funk commence petit à petit à s'éteindre.
Ouais.
Clairement, bah, même le rap West Coast commence à s'éteindre, vraiment. T'as des groupes un peu comme le Booyah Tribe qui font du gangsta rap, qui marchent encore, mais avec un succès local.
Ouais.
Voilà, t'as Corrupt qui essaie de sortir des albums, mais on va pas se mentir, même si je les adore, les albums de Corrupt, ils marchent pas forcément bien.
J'adore Corrupt, quel rappeur incroyable.
Mais oui, quel rappeur incroyable. Bon, t'as Dr. Dre qui a sorti 2001 et qui va te sortir un Eminem qui va devenir une superstar. Mais qu'est-ce qui reste des vestiges G-Funk et Gangsta Rap dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et jusqu'à 2005? Pour alors moi, déjà, le fils de cette era... Bah, ouais. Vas-y, je te laisse d'abord
des points. Non, c'est bah, juste avant que tu poursuives et qu'on arrive là, qu'est-ce que tu penses de l'album The Aftermath de Dr. Dre?
Moi, je l'aime bien.
Moi aussi, je l'aime bien.
J'aime bien. Il y a des morceaux que je trouve incroyables, notamment le East Coast Killers, West Coast Killers.
Incroyable.
Bah, le mec, bah, tu vois, on la boucle est bouclée, il ramène qui? KRS-One.
Exactement.
KRS-One, je trouve que RBX, il fait un couplet incroyable. Bah, tu vois, les deux écoles réunies, main dans la main, qui reviennent faire du gangsta rap.
C'est clair.
Mmh. Après, bon, c'est pas un album qui... c'est pas un classique. Voilà, faut dire les termes. Il s'en passe une bonne compile. Voilà. Je crois que c'est là-dessus aussi qu'il y a le morceau de Sam Snead.
Oui.
Got to Recognize.
Ouais.
Qui est très bien. Ouais, et très bien ce morceau aussi. Sam Snead qui s'est perdu, après on l'a plus revu quoi. Voilà.
<Le pauvre. rire>
Mais voilà, donc après il y a eu le Chronique 2001.
Ouais.
C'est vrai qu'avant de parler des années 2000, il faut parler de Chronique 2001. Hein. Il est important pour le gangsta rap. Pour moi, là, Dr. Dre revient plus avec du G-Funk. Là, pour moi, il éteint le G-Funk et il se dit là, je reviens aux sources, je fais du gangsta rap. Le Style Dre, c'est un morceau de gangsta rap. Et c'est marrant, il n'y a pas Ice Cube dessus.
C'est vrai.
Et Ice Cube, j'aurais très bien vu fitter dessus. Après, quand tu en y réfléchissant, un morceau comme Explosive avec Ned Dogg, c'est quand même G-Funk. Hein.
Ouais.
Il est particulier, cet album.
Il est particulier, cet album. Il est un peu lunaire, il est un peu singulier dans la prod et tout. J'ai du mal à savoir si c'est G-Funk, si c'est Gangsta Rap. J'ai comme. C'est comme si cet album-là a été. Je sais pas, il est bizarre.
Ouais, tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, il a voulu un peu faire une nouvelle sorte de rap, et puis ça marche, parce que c'est ce qui va définir l'identité des rap des années 2000. Tu as le morceau, par exemple, Forgot About Dre avec Eminem, c'est ce que va faire Eminem dans les 10 prochaines années après. C'est-à-dire ce rythme très, très rapide, avec des violons. Il te présente un Nate Dogg qu'on va revoir plus souvent. En featuring dans les années 2000, tu vois, par exemple, Mos Def et Pharoah Monch, avec Ludacris pour Area Code, Nate Dogg, on va le voir partout au début des années 2000. Il te montre un nouveau panel d'artistes en disant intéressez à vous maintenant, intéressez-vous à eux. Bon, pour Hitman et Nocturnal, ça a moins été glorieux. Mais Exhibit dessus aussi, tu vois, Exhibit, c'est Gangsta Rap.
Ouais.
Alors que de base, Exhibit faisait du rap de niche, il faisait du rap un peu comme Rascasse.
dit alcoolique tout ça là.
Ouais, c'est un proche des Alcoholics, donc c'est et là il te présente un nouveau Exhibit qui arrive avec un tube X. Dr. Dre vient avec une super équipe
Ouais.
qui fait du gangsta rap.
2001, il a pas d'identité, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça.
Ouais.
Dans le sens
Dis-moi.
où, bah, en fait, il n'a pas d'identité musicale.
Ok, intéressant.
Dans le sens où, de Chronique, Doggy Style, même l'album de Lady of Rage, le premier de Dog Pound, tout ça, ils ont plus d'identité. Je trouve que 2001, c'est vraiment. Bon, bien sûr, il n'a pas travaillé seul aussi, mais c'est quand même son album. Mais. Il y a tellement d'invités, ça part tellement dans tous les sens, que pour moi, c'est plus une compilation qu'un album.
Ah, pour moi, c'est la dé. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que pour moi, il crée une nouvelle identité. C'est-à-dire
Sûrement.
que il abandonne ce qu'on connaît des années 90 avec justement une identité cohérente, en plus avec des interludes, etc. Un album qui est très nocturne.
C'est vrai.
Ouais, mais intéressant quand même comme point de vue. Ok.
Mais je veux.
Il y en a qui le voient comme une compile. C'est marrant parce que c'est vrai que quand je demande autour, il y en a qui le voient comme une compile comme toi.
Ouais.
Et il y en a qui. Moi, je le vois plutôt comme un album cohérent, hyper bien mixé,
Oui.
justement, où tu vas piocher les artistes. Un peu comme le My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West.
Ouais.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui le voient comme une compile en disant il y a un morceau avec Rick Ross, il y a un morceau avec Nicki Minaj, ça part dans tous les sens. Et moi, je le vois comme un truc hyper cohérent. Ok.
Oui, c'est cohérent, mais c'est.
Et pour moi, Eminem, il va apporter un nouveau souffle au rap d'une autre manière, tout aussi dérangeante que le gangsta rap. C'est-à-dire que le gangsta rap, c'était les gangs, c'était. Hein. Sauf que là, Eminem, c'est un mec qui en a chié dans sa vie, qui parle de ses traumas, qui fait une sorte d'horrorcore, en fait, mais plutôt accessible, avec beaucoup de second degré. Et Eminem va redonner un nouveau souffle au rap. C'est un peu un enfant du gangsta rap sans faire du gangsta rap, l'air de rien.
Ouais, comme Bone Thugs and Harmony, en fait, tu vois, un peu.
Oui, voilà, ouais, totalement, tu vois. Sauf que Bone Thugs Harmony reste toujours très sombre. Eminem, le second degré, par exemple, le My Enemies, clairement, dessus, il parle de trucs atroces. Hey, les enfants, est-ce que vous aimez la violence? Il parle de se faire abuser par son professeur d'anglais.
Tuer sa
Et.
mère et.
Ouais, voilà, c'est. Enfin. Moi, je me souviens que Eminem, quand j'écoutais, je comprenais pas l'anglais. Et maintenant, quand j'écoute Eminem, je me dis, ouais, c'est chaud ce qu'il raconte. Voilà, les 3 premiers albums, c'est des pépites. Relapse, qui sortira plus tard aussi, c'est une pépite. Malheureusement, sa carrière a eu des hauts et des bas. Et ça reste quand même un rappeur exceptionnel, quoi.
Ouais. Mais voilà, du fait qu'ils viennent de Détroit, comme Bone Thugs and Harmony, ils viennent de Cleveland, ils viennent un peu de ville qui n'était pas dans la Dream Team du rap, quoi, tu
Bah
vois, bien
voilà.
avant, tu sais, bien avant que d'autres villes s'ajoutent dans vraiment les capitales du rap. Ben, ouais, moi, je pense que, comme tu dis, genre, ils ont créé autre chose. Eminem a créé autre chose.
Clairement. Et c'est même pas, ça sonne même pas comme le rap de Détroit de l'époque, parce que le rap de Détroit de l'époque, c'était J Dilla,
Ouais.
c'était les, comment s'appelle son groupe là, Slum Village, tout ça, ben, ça avait une sonorité mais totalement différente quoi. Et par la suite, donc du coup, c'est là où on va voir, donc du coup, les mecs qui sont influencés du gangsta rap, je parlais de Xzibit qui faisait plutôt un truc dans le même genre que les Alcaholics,
Grave.
Eminem, plutôt dans l'horrorcore. Et là, Eminem va produire un rappeur. Et moi, à l'époque, je me prends ce rappeur. On est en 2003, 50 Cent.
Ouais.
Et 50 Cent, c'est limite presque une caricature du gangsta rap. C'est le mec hyper musclé, il s'est pris 9 balles dans le corps. Il arrive avec une esthétique, encore une autre esthétique différente.
Le côté pimp.
Il y a aussi le côté pimp qui est repris, voilà. D'ailleurs, le PMP remix avec Snoop Dogg, enfin, tu vois, c'est fou. Et puis il arrive avec des nouveaux rappeurs, Lloyd Banks qui est une super plume, Young Buck qui vient un peu plus au sud, et Tony Yayo qui est un peu le goon de service.
50 Cent, c'est un game changer parce qu'il arrive aussi avec... il rappe et il chante.
Voilà. Alors, il y a une clé qui manque entre 50 Cent et le rap d'avant, c'est Ja Rule. Parce que Ja Rule faisait du rap et chantait en même temps aussi. Il faisait aussi appel à des chanteurs R&B. Il avait un peu démocratisé ça et Ja Rule, c'était un succès fulgurant à l'époque. Hein.
C'est vrai.
Mais
Oh
bon,
bah
50
oui.
Cent, un
Oh là,
clash,
oh
deux
là.
temps, trois mouvements, fini. Il a mis un terme à sa carrière. Mais je suis d'accord avec toi parce que c'est un game changer.
C'est un game
Il l'a
changer, je
vraiment
pense.
démocratisé, ce
Parce
côté
que je pense
chanté.
que, tu sais, avant 50 Cent, ou bon, avant Ja Rule aussi, il n'y avait pas ce truc. Bah, tu sais, en fait, on faisait appel à des chanteurs ou des chanteuses.
Oui, il y avait les chanteurs, mais Ja Rule, cette fois, se permettait un peu de chanter, c'est pour ça que
Mais
j'ai.
50 Cent, il arrive avec cette voix qu'il a, où c'est pas quelqu'un qui a un coffre énorme, mais. Putain, il rappe, il chante en même temps, il rappe et c'est hyper mélodieux.
Ouais.
Incroyable.
Mais les refrains sont mémorables, hein.
Ouais, bah oui.
Et bah, tu prends le Many Men. Many Men, le refrain est iconique. Et finalement, tu as par exemple 21 Questions, il fait appel à Ned Dogg au refrain, mais il chante lui aussi
Exact.
dans 21 Questions. Et il se fait pas pour autant éclipser par Ned Dogg quand il chante, il a son style aussi, enfin.
Le premier album de 50 Cent est incroyable. C'est un album game changer dans l'histoire du hip-hop.
Totalement. Totalement d'accord. Et j'ai envie de te dire que toi tu préfères c'est une question généralement les gens n'osent pas trop répondre, mais tu préfères Get Rich or Die Trying ou The Massacre? Les gens disent toujours Get Rich or Die Trying
Get
sans
Rich or Die
hésiter.
Tryin, moi je l'aime énormément.
Moi aussi, mais The Massacre, il y a quand même y a quand même plus cette atmosphère pimp. Parfois un peu sombre. Mais les morceaux hors single de The Massacre, je les trouve meilleurs que ceux sur Get Rich or Die Tryin. Et je parle vraiment des morceaux hors single. Parce que les singles de Get Rich sont à un niveau qu'on pourra jamais égaler.
C'est sûr.
Et tu vois, par exemple, I'm Supposed to Die Tonight, le Ski Mask Way, Get in Your Car, Baltimore Lofting, God Gave Me Style, je trouve que c'est des morceaux incroyables. J'aime aussi un petit guilty pleasure pour le morceau avec Olivia. So amazing. Voilà. Et pareil, 50 Cent, en fait, bah, avec le G-Unit, il va relancer un peu le gangsta rap.
C'est ça,
Est-ce
et...
qu'il relance pas le gangsta rap?
Moi, je pense qu'il relance New York aussi, parce que putain, à l'époque.
Qu'est-ce qui marchait dans les années 2000 à New York?
Plus grand-chose, hein. C'était. New York avait un peu perdu le flambeau, quoi, tu vois.
C'est vrai que là, on était plus dans le sud. Il y avait Ludacris, il y avait Outkast,
Ouais, il y avait Goody
le
Mob.
Crunk. Goody Mob, ouais.
Ouais, il y avait Goody Mob et tout ça, jusqu'à l'arrivée, en fait, bah, de T.I. aussi, qui a aussi. Porter vraiment le sud sur ses épaules aussi, quoi.
C'est vrai.
Bien avant le trap, il y a eu Outkast, Goody Mob, et après il y a eu T.I. qui a eu un énorme succès aussi, de qui on parle pas souvent, mais je pense que c'est un rappeur qui a mis vraiment Atlanta sur la map aussi.
Il a déjà il a donné un nom au genre trap.
Oui, exactement.
Sur
Bien
l'album
avant
Trap
que la
Music.
trap soit, tu sais, genre vraiment, genre très ternaire, très Migos, tu vois. Mais
Oui,
à
très
New
ternaire au
York.
niveau des accords, là, ta 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 ta, effectivement.
Exactement, tu vois. Mais moi, c'est une époque là où j'écoute peu de rap. OK? Milieu des années 2000, j'écoute peu de rap. Je suis sur des je suis sur des restes de M.O.P. un peu de New York, puis des genre puis des trucs comme ça. Mais j'écoute vraiment peu de rap. J'avais un petit peu lâché le rap et tout. Moi, je suis revenu au rap 2014 avec Futur.
Ah mais Futur c'est exceptionnel.
Parce que
On pourra
pour
en reparler
moi,
un jour de Futur. Hein.
bah oui, on pourrait
Ah
faire un
oui,
truc
effectivement.
sur Futur et Young Thug et tout, mais moi Futur il m'a ramené dans le rap. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon là
Moi
on
c'est 2
s'éloigne un peu de
Chainz
notre
qui m'a
sujet.
ramené au rap.
Ah ok.
Parce qu'à un moment j'avais un peu décroché entre 2008
Ouais.
et 2012, et quand j'ai écouté 2 Chainz et après Kendrick Lamar, je me suis dit, ah oh, putain le rap est pas mort en fait, vas-y je veux revenir dedans.
J'écoutais un peu The Game qui pour moi était un... En fait, un nouveau poulain du rap West Coast aussi. J'aimais beaucoup
Ce documentary.
ouais, tu vois. Puis l'imagerie vraiment, Lowrider.
Mais justement, il va déterrer
Exact.
le style gangsta rap
Ouais.
parce que il revient bah, sur sa cover. Il a des Chuck Taylor, il a un Dickies,
Les grosses
il
jambes.
a des bandanas, il a un tatouage NWA avec un tatouage avec la tête d'Eazy. Voilà, et ce qui est intéressant en ces morceaux, c'est qu'il fait pas mal de shout-out à plein de rappeurs.
Ouais.
Tu vois, par exemple, Master P, tout ça, hein, c'est ce que j'aimais beaucoup avec The Game. Et The
Moi,
Game, moi,
j'ai.
je pense que c'est même un meilleur rappeur que 50 Cent. Hein. En tout cas,
Moi,
moi, c'est
j'ai
un rappeur que
trop.
je préfère à 50 Cent, parce que 50 Cent, en soi, c'est 2 albums. C'est quelque chose de très intense, très court, mais The Game... Même bon, ces derniers albums sont un peu moins bien, mais ça va durer hein, pour encore 10 ans. Hein, et là, j'ai des couplets incroyables.
Moi, j'aime beaucoup The Game, vraiment. The Game, genre, il a ramené ces espèces de gros sons bounce de Los
Ouais.
Angeles. C'est vraiment un rappeur. Jesus Peace aussi, bon, qui était sorti en 2012,
Oui, exceptionnel.
qui est incroyable comme album. Dans les porte-étendards vraiment du rap West Coast.
Ouais, en tout cas, dans les années 2000, il y a que lui sur la web. Avec Snoop, il y a que lui. Parce qu'au final, le mec de la West Coast qui continue sur sa ligne de mire, son chemin avec des albums qui marchent, des tubes qui marchent, c'est Snoop.
Mais...
Parce que Ice Cube va faire comme une pause. Ice Cube, il va revenir très fort, par contre. Il va revenir 2007 avec Love Now, Cry Later et puis Raw Footage. Et parce que entre-temps, il y a eu des embrouilles avec Mack Ten, donc du coup, la West Side Connection, ça a un peu capoté. Et après, quand on arrive dans les années 2010, bah la West Coast, c'est plus la West Coast. Alors, si, il y a encore un petit revival
Ah ouais,
avec
c'est...
DJ Mustard et YG.
Ouais.
Parce que YG, c'est du gangsta rap. Des fois, il fait des sons un peu inspiration G-Funk, etc. Mais c'est purement du gangsta rap. Et YG sort encore des trucs maintenant. YG, il est encore d'actualité. Alors, évidemment, t'as aussi Tyga. Mais Tyga, c'est un petit peu plus gentillet, quoi. Mais YG, t'as Nipsey Hussle. Et au final, pour moi, Nipsey Hussle, YG, c'est toujours ceux qui font perdurer le rap gangsta aujourd'hui. Enfin, paix à son âme, Nipsey Hussle.
Ouais.
Mais ce sont ceux qui ont fait le perdurer le rap, gangsta rap, encore aujourd'hui.
Nipsey Hussle, il est arrivé comme est arrivé The Game avant, quoi.
Avec un peu moins d'impact, quand même, parce que
Ouais.
Nipsey Hussle est moins connu.
C'est vrai.
Il est arrivé avec des mixtapes, mais c'est vrai que dans le délire gangsta rap, délire affiliation à des gangs et tout, il est revenu comme The Game, c'est quand même un assez bon parallèle, je trouve.
Très Los Angeles, quand même, tu vois, c'est...
Et il faut pas négliger qu'il y a eu aussi Schoolboy Q. Schoolboy Q qui est encore là, qui a sorti un album cette année, bon, en demi-teinte. Moi, j'ai pas trop aimé, mais je sais qu'il y en a qui ont adoré.
Moi, j'ai adoré.
C'est vrai?
Ouais. J'ai adoré, j'ai trouvé ça. J'ai vraiment trouvé, bon, c'est une expérience. Il n'y a rien, qui est entraînant sur l'album.
Bah, Kin Love est quand même entraînant, quand même.
Oui. Mais tu sais, il y a des morceaux qui sont en 2-3 parties où le beat change, où les sonorités changent. C'est des expériences. Plus...
Bah moi, c'est ça qui m'a dérangé, justement. C'est ouais, que bah oui. Y a trop de beat switch. Des fois, il y a un morceau incroyable qui commence et 20 secondes après, on passe sur autre chose.
Ouais,
et moi, c'est ce qui m'a sorti l'album. J'ai essayé de le réécouter. Je lui ai redonné autre chance.
Ouais.
J'y arrive pas. Mais je peux comprendre qu'effectivement, c'est une expérience. Ouais.
Ouais, c'est vraiment une expérience, je trouve.
Et il rappe super bien.
Bah oui, bien sûr. Et donc, comme on en parlait aussi tantôt, dans les rappeurs vraiment... gangsta rap ou G-Funk, on va voir, mais par exemple, quelqu'un comme Yellow Hill.
Ah, bah voilà, dans la nouvelle génération,
dans
Yellow Hill.
Dans la nouvelle génération, tu vois.
Il y en a plein, hein, comme lui. Hein. Il y a. Larry June, justement, est-ce que c'est pas plutôt un enfant du G-Funk ou du gangsta rap avec sa manière un peu chantée
Très bonne question. La question, c'est est-ce qu'on peut. Faire encore la distinction aujourd'hui en 2024.
Parce que pour moi, le gangsta rap, quand on parle de gangsta rap aujourd'hui dans les codes, c'est plutôt le rap de Memphis.
C'est vrai.
Et ils n'ont même pas les mêmes parents, parce que les parents, c'est la Three Six Mafia. Tous les mecs de Memphis s'inspirent de la Three Six Mafia. Mais il y en a pas mal qui s'inspirent de la Californie. Hein. Je vois par exemple un Key Glock. Il y a un de ses morceaux, il rentre en reprenant du Snoop Dogg. Il y a même un rappeur de Memphis qui s'appelle Lil Snoops.
Oui, Lil c'est, Snoop. Vrai.
Et
ouais,
c'est vrai. J'ai l'impression que Memphis a plus été inspiré par le gangsta rap que par exemple le rap new-yorkais.
C'est sûr,
par
100%.
Exemple, la manière de produire très samplée de DJ Premier, ils se sont moins pris ça, quoi.
Ouais.
Que par exemple, à Détroit, ils s'inspirent plus du rap new-yorkais que du rap G-Funk.
Ouais. Kendrick Lamar, fait-il du gangsta rap?
Pour moi, non. Pour moi, c'est Kendrick Lamar, c'est Nas. C'est Nas qui parle à la troisième personne de ce qu'il voit dans la rue, et Kendrick aussi, c'est un peu ça.
Je suis grave d'accord.
Mais c'est... Et Kendrick Lamar va un peu s'inspirer, bah, son rap, un de ses albums préférés, c'est celui de DJ Quick, et ça, on l'entend beaucoup sur To Pimp a Butterfly. On entend aussi un peu le côté A Tribe Called Quest,
ouais.
Dans le côté un peu jazzy. Et sur son album Good Kid, Mad City, les rythmiques, c'est trap.
C'est vrai.
En soi, il va piocher un peu à droite et à gauche, tu vois. C'est un peu comme, tiens, ton compatriote Drake.
Ouais.
Parce que Drake, en soi, on a beau le critiquer, mais c'est un vrai fan de hip-hop. Il va te citer le Wu-Tang, il dit s'inspirer de MF Doom, il s'inspire de Mac Dre. Tu vois, on a parlé de la Bay Area, mais c'est un mec qui va piocher un peu à droite et à gauche, et voilà. L'air de rien.
Ouais. Kendrick, il est vraiment dans son truc à lui, c'est vraiment très singulier. Moi, j'ai jamais été un gros fan de Kendrick, je t'avoue. Ce côté un peu jazz.
Ça s'entend.
Jazz fusion orchestral. Moi, c'est les prods un peu de Kendrick qui me. C'est musicalement que ça vient pas trop me toucher.
T'aimes pas trop ce qui est un peu jazzy, genre par exemple Tribe Called Quest, ça va moins être ton truc.
J'aimais ce côté de la native tongue dans les années 90. Mais comme c'est fait aujourd'hui, maintenant, moi, à la limite, je serais plus comme Yellow Hill, tu vois.
Ouais.
Genre, dans ce genre de rappeur-là que j'aime aujourd'hui, c'est les prods de Kendrick qui me touchent pas. Je trouve qu'il est très éclaté, mais pas dans le sens péjoratif, mais très éclectique, très ouvert. Et ce côté-là de Kendrick dans son orchestration musicale, ça vient moins me toucher.
Mais je peux comprendre, hein, Kendrick.
Comme Kanye West,
normalement, c'est
aussi,
pas censé parler à tout le monde. Hein, c'est quand même assez particulier. Kendrick, c'est les gens qui disent j'adore Kendrick Lamar sans vraiment avoir écouté leurs albums, sont des gens qui connaissent que les tubes, et les tubes sont relativement accessibles, quoi.
Exactement.
Mais voilà, après, quand on écoute ces albums, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde.
Ouais.
Pour revenir au gangsta rap, faut pas oublier qu'il y a quand même toute toute une forêt qui pousse quand même autour de ça. Dans les années 2000, tu as quand même eu les Glasses Malone, les Compton Menace, etc. Des mecs qui ont essayé d'émerger, qui vivaient de la musique, hein, qui ont réussi à vendre dans un succès local. Ouais. Et quand on voit par exemple sur la Bay Area, quand on regarde sur le média Tizzler, tous les artistes qui émergent, comme par exemple JB, Red Code, etc., c'est des enfants du gangsta rap et ils marchent, mais que sur la Bay Area, quoi. Ou alors il y a quelques passionnés un peu partout aux États-Unis ou en France qui les écoutent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un style qui va sûrement jamais mourir, le gangsta rap.
Exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir ce que tu disais, je vous conseille aussi le style, le site, pardon, westcoaststyles.com, qui est vraiment cool, sur lequel, comme là, j'ai découvert Snoopy Badass, j'ai découvert un rappeur de Englewood, dont je ne... Et donc, c'est un site comme celui que tu viens de citer qui met vraiment en lumière des artistes locaux ou alors qui peuvent juste faire leur carrière vivier. Sur 2-3 états, quoi.
C'est un vivier d'artistes. Ouais. Et quand je vois qu'aujourd'hui, en Californie, il y a énormément d'artistes et dans des styles différents, tu vois. On a parlé de Kendrick, il y a aussi West Side Boogie, tu vois. Il y a... on a parlé de YG, et finalement, quand je reviens à New York aujourd'hui, il n'y a plus grand chose. À New York, je serais incapable de te citer. T'as Griselda qui sont dans la banlieue de New York, Buffalo, etc. Mais j'ai pas d'artiste new-yorkais que j'écoute actuellement. Nas, j'en suis arrivé à écouter des artistes de 50 ans. Il n'y a que Nas où je me dis, ah, c'est cool ce qu'il fait en rap new-yorkais.
Il sort des bons albums, Nas, quand même. Là.
Il sort encore des bons albums, ouais. Il m'a un petit peu gavé à sortir des albums. Je trouve qu'il devrait un peu trop les espacer, tu vois. Magic 1, Magic 2, etc. Magic... Ouais. Mais il sort encore des bons albums à passer 50 ans, quoi. C'est ça qui est fou, quoi.
Par exemple, un rappeur de Los Angeles que j'aime beaucoup, qui a été connu sur le show Rhythm and Flow, c'est D-Smoke.
Ah oui, D-Smoke, ouais, effectivement. Bah, lui, pour le coup, j'avais écouté son premier album.
Ouais.
J'avais écouté son premier album, mais j'ai pas suivi par la suite. J'ai pas trop suivi, mais ok, s'il sort encore des trucs, pourquoi pas.
Tu vois, c'est un rappeur californien de Inglewood qui fait des choses très originales aussi, quoi. Je trouve ça. C'est ça, espèce de rappeur californien de la nouvelle vague, quoi.
Effectivement. Ok, bah je pense qu'on a à peu près fait le tour du gangsta rap. Alors c'est vrai que là, rétrospectivement, on n'a pas parlé de Team Dog.
C'est vrai.
À l'époque, c'est vrai que bon, Team Dog en soi, c'était un petit peu le New-Yorkais aigri qui ça le titillait un petit peu de voir que la West Coast marchait et que son groupe les gens préféraient écouter N.W.A. que les Ultra Magnetic MCs.
Ouais.
Bon.
Ah, le pauvre, il est mort tout seul avec sa rancœur, quoi.
C'est vrai que le pauvre paie à son âme quand même. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour du gangsta rap en soi.
Ah ouais. C'était super cool, on a parlé de tout.
Et autant la G-Funk était. Quand on parle de West Coast, les gens pensent de G-Funk, mais en final, G-Funk, c'est 10 ans.
Ouais.
Et moi, je suis un gros fan de G-Funk. Après, il y a eu des gens qui sont inspirés de la G-Funk. Mais par exemple, aujourd'hui, tu prends un Larry June qui fait des sons un peu laid-back, c'est pas de la G-Funk, c'est encore autre chose. Les productions que fait Cardo, avec des inspirations un peu smooth jazz, etc., c'est pas de G-Funk. Ou alors, il y a des gens qui essaient de refaire des trucs comme dans les années 90, mais ça compte pas, quoi.
D'ailleurs, pour terminer, comment tu appréhendes, la venue de l'album Missionary ?
Ah bah moi je suis client. Moi de toute façon les albums de Snoop, ouais. Je les ai tous écoutés, je les écoute encore. Le Back on Death Row, moi j'avais kiffé.
Ouais.
Tu vois. Moi j'avais vraiment kiffé. Et c'est sûrement par manque d'objectivité, parce que j'aime beaucoup Snoop. Des fois il sort des merdes, hein. Par exemple I Wanna Thank Me, il y avait des morceaux un peu, il y a des morceaux nuls. Je crois qu'un peu dans tous ces albums il y a des morceaux nuls, hein. Des fois il fait des mauvais choix. Missionary. Je pense qu'il va décevoir. Je pense que les gens ils sont en train de se dire oulala Dr. Dre, oulala Snoop. Mais moi honnêtement, ce qu'a fait Dr. Dre depuis le début de l'année, je suis pas hyper convaincu.
Ouais.
Parce que l'album de Marchand Brossus, ok, il reprend des morceaux de Nas, c'est cool, il y a des hommages à plein de morceaux de rap, de funk et tout, c'est génial. Mais j'attendais un autre album. Voilà. L'album d'Eminem, produit par Dr. Dre, grosse déception. Les morceaux produits par Dr. Dre, je les aime pas.
Ok.
Voilà. Moi, j'ai plus kiffé le morceau avec G.I.D., qui est pour moi, G.I.D., un des meilleurs rappeurs actuels.
Ouais.
Il est trop fort en termes de flow et tout. Et là, il regarde Eminem dans les yeux. Mais Dr. Dre, cette année, est-ce qu'il va nous surprendre? Je sais pas. Déjà, j'ai envie de te dire, hein, Compton, c'est un bon album, mais on est déjà un cran en dessous de tout ce qu'il a fait. Et c'est ouais, Dr. Dre, moi, je m'attends pas à ce qu'il déplace des montagnes. Hein, le pépère est 60 ans maintenant, 57 ans, je sais pas.
Ouais. Puis là, il a fait une entrevue il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et en fait, il lâche le nom d'un invité qu'il y a sur l'album. Il dit que Sting est sur l'album.
Mais oui, j'ai entendu ça.
Ouais, bon. J'ai envie de te dire, bon, c'était pas nécessaire.
Est-ce que c'était censé te hyper? Ça se trouve, le morceau est incroyable, tu vois.
Ah, ça m'a pas hypé du tout. Pourtant, j'adore Sting, puis je suis un fan de The Police. Mais là, on parle de Dr. Dre et Snoop.
Évidemment, mais c'est comme si avant de sortir ma Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye te dit il y a Elton John sur l'album.
Ouais.
Tu sais, ça me donne pas envie, alors que le morceau où il y a Elton John est incroyable, c'est All of the Lights. Tu vois, mais.
Ouais.
Non, il aurait peut-être pu s'abstenir de le dire.
Comme le Bone Thugs and Harmony, puis Phil Collins. Je suis désolé, mais ça me hype pas, quoi, tu vois.
Ouais, ça serait dingue.
Fait que là, voilà, c'est ça, il dit ouais, bon. C'est. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, écoute.
Bon, on verra bien, mais moi je te dis, moi j'ai aucune attente. Ça se trouve, il va me décevoir. Ça se trouve, je vais adorer. Connaissant mon manque d'objectivité envers Snoop, je vais kiffer. Mais ça se trouve, il va me décevoir aussi. Enfin, je sais pas, on verra.
D'ailleurs, pour finir avec Snoop, je l'ai vu en concert il y a deux mois et demi, trois mois à Montréal. J'ai écrit un article pour un.
J'ai un pote qui y a été aussi à Montréal. Il y avait le Doc Pound aussi qui est venu sur scène.
C'était incroyable. Il y avait Twins. Ouais.
Il y avait les Twins aussi. Ça, c'est fou.
Il y avait Lady of Rage. Puis en fait, ils avaient reconstruit l'espèce de décor qu'il y avait dans Up in Smoke avec les niches, le grillage. Il est arrivé sur scène avec une
Six-Floor Impala. Incroyable. Fou. J'ai vu les images. Un pote qui justement était parti au Canada et il l'a vu. Et il m'a dit que c'était dingue. Et aussi le fait qu'il ait rappé, par exemple, Lodi Dodi.
Ouais.
En fait, Lodi Dodi, la prod qui est sur Doggy Style, elle est pas terrible. Faut dire les termes. Mais elle est pas ouf, la prod. Ouais. Et si on connaît pas Snoop, on risque pas de rentrer dedans. Quand il l'a fait, ce Lodi Dodi, c'est quand même un morceau qu'il aime bien parce que c'est un hommage à Slick Rick. Quand il l'a fait à Paris, il l'a fait sur le morceau de Mr. Magic de Grover Washington. Et quand il l'a fait à Montréal, il l'a fait sur Tom Tom Club de Genius Love de Tom Tom Club. Et apparemment, c'était vachement bien.
Ouais, non, mais tout le concert était incroyable. Il nous a, genre, des performances. Lady of Rage sur scène était incroyable, quoi.
Ah, ça m'étonne pas. Quelle rappeuse.
Ah ouais. Mais le
son. T'as entendu le son qu'elle a sorti cette année avec le Dog Pound?
Oui, super.
Ah oui.
Super. J'ai juste trouvé que les Dog Pound sont restés trop longtemps sur scène. Ils ont fait 45 minutes tout seuls. C'était beaucoup trop.
Ouais. 45 minutes Dog Pound, ouais, je trouve. Ouais, 45 minutes. Quels sont Dog Pound?
Que de Dog Pound, je te jure. Il n'y avait pas Snoop, il n'y avait personne. C'était eux deux, mais c'est normal. Ils sortent un album, ils reviennent. Tout ceci makes sense, tu vois.
Il est bien sur leur album en plus. Oui, moi, j'ai bien aimé.
Ouais, il est bien. Mais Snoop, Snoop, en plus, genre, il nous a gâtés, hein. Genre, avec un écran géant, vidéo et tout, vraiment un spectacle.
Pareil, quand j'ai vu à Paris, c'est un des meilleurs concerts que j'ai fait, Snoop.
Ah, c'était incroyable. Moi, j'avais vu Snoop il y a des années à Lyon. Parce que moi, je viens de Grenoble, donc c'était l'époque où il était avec Master P.
Oh, incroyable.
Ouais, et il est venu sur scène avec Silk the Shocker,
Simurder. Oh là là.
C'était incroyable. C'était incroyable.
Oh, ça devait être fou. Ah, est-ce que mais ça c'était en 98 alors.
Ouais, exactement.
Putain, c'était
incroyable. C'était complètement
quand il a fait ce concert à Paris.
C'était lunaire, j'avais dit mais qu'est-ce que Snoop vient foutre à Lyon genre au Transborder. Et
ça devait être ghetto aussi un peu, non?
Ouais.
Parce qu'à Paris apparemment, c'était vraiment ghetto.
Ouais.
Mais même le concert de Snoop en 2005 qu'il avait fait, c'était ghetto. Hein. Maintenant, ça s'est largement, comme on dit, édulcoré. Le public s'est beaucoup plus gentrifié, quoi.
Je vais te, je vais te confier quelque chose. Dans le concert de Snoop que j'ai vu à Montréal il y a 2 mois et demi environ, c'était dans une salle qui s'appelle le Centre Bell et c'est en fait une aréna dans laquelle il y a des matchs de hockey. Ouais. Donc la capacité est quand même très grande. C'est des gros arénas. Ouais. Et moi, j'étais quand même assez bien placé dans cette salle-là, vu que j'avais eu l'occasion d'aller écrire un article, en fait, qui est toujours disponible sur le site sortu.ca. Et quand j'ai regardé la foule, à un moment donné, entre chaque scène, il y avait les lumières qui étaient allumées et tout. Majoritairement, il y avait presque que des blancs au concert de Snoop.
Bah ouais. Bah tu vois, hein, maintenant, tout a changé.
Ah ouais, c'est...
Et puis, j'imagine qu'il a fait ses morceaux Sweat avec David Guetta, California Girls avec Katy Perry.
100%.
Il en faut pour tous. Moi, j'étais pas compte qu'il les fasse en live.
Ouais. Puis il y avait des stripteaseuses, nous, sur scène, avec des pole dance.
Ouais. Ouais, nous aussi, quand il a fait Sexual Eruption, il y avait ça.
C'était le show, tu vois. C'est...
Ah ouais.
Il nous a offert un show, Snoop.
Il s'est investi.
Ouais.
Bon, bah écoute, bonne façon de conclure un podcast. La meilleure façon de conclure un podcast, c'est de parler de Snoop.
C'est clair.
C'est dit. Ouais, bon, en tout cas, merci pour cette discussion fort intéressante sur le gangsta rap.
C'est génial.
Pete Gaillard, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous pouvez également écouter son podcast Dans le vent.
Dans le vent, sur toutes les plateformes et tout, de téléchargement, podcast sur 11 MTL Média. Merci
11
à
MTL
toi.
Média, pardon.
Exactement. Merci à toi, Filka. J'étais vraiment super, super honoré de enfin pouvoir faire quelque chose avec toi.
Et moi aussi.
Je regardais tes vidéos où tu étais seul, face caméra depuis le début, jusqu'à les discussions avec toute ton équipe, qui eux aussi ont des comptes super intéressants, vraiment sur la culture hip-hop. Donc je trouvais ça cool.
Bah, merci beaucoup à toi, plaisir partagé, vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'avoir discuté avec toi. En plus, ça faisait un moment que j'avais pas enregistré d'épisode, là ça me permet de me remettre un peu dans le jus. Yeah. C'est grâce à toi.
C'est la rentrée.
Donc voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. Et on se dit à la prochaine.
Ciao, merci.